Matarois 1945. Une odyssée moderne. Un documentaire de Yorgos Archimandritis, réalisé par Laure-Hélène Planchet. Premier épisode, l'Arche de Merlier. Décembre 1945. La guerre est finie, mais en Grèce, une autre menace gronde, celle d'un conflit fratricide. Dans un pays à bout de souffle, un départ collectif se met en place pour permettre à plus d'une centaine de jeunes Grecs de quitter leur terre natale et leur offrir un avenir. Leur destination, Paris. Au cœur de cette expédition aux allures d'épopée moderne, un homme, Octave Merlier, directeur de l'Institut français d'Athènes. Un navire militaire néo-zélandais qui porte le nom de Matarua, la femme aux grands yeux en polynésien. Longtemps restée dans l'ombre, cette opération extraordinaire constitue l'un des événements les plus marquants des relations franco-grecques de l'après-guerre. Entre grande histoire et destins individuels, archives rares et récits croisés, entre romans familiaux et approches historiques contrastées, nous partons sur les traces de cette odyssée du XXe siècle, là où tout a commencé. À l'Institut français, à Athènes. Quel est le cadre historique dans lequel l'expédition du Matarois s'est effectuée?
Il faut se positionner dans le temps.
Nicolas Manitakis, professeur associé au département de langue et de littérature française de l'Université d'Athènes.
Donc nous sommes en décembre 1945, mais il faut bien comprendre que la Grèce ne se trouve pas dans un temps de libération, mais plutôt dans un temps de guerre civile, parce qu'il y a eu une première étape de ce qu'on pourrait appeler la guerre civile, qui s'est produite donc en décembre 1944, 2 mois après la libération de la Grèce et le retrait des troupes allemandes qui s'est produit en octobre 1944. Et peu après la libération, vous avez l'affrontement entre 2 camps. D'un côté, les forces communistes qui avaient participé activement à la résistance et de l'autre, les forces anticommunistes et gouvernementales qui, avec l'appui des Britanniques, vont gagner ce qu'on appelle la bataille d'Athènes, donc une bataille qui va durer à peu près 1 mois et qui s'est soldée par la défaite des forces communistes. Et à la suite, nous avons l'accord de Varkiza qui, en quelque sorte, va officialiser la défaite de la gauche communiste qui va accepter de rendre les armes. Donc nous sommes dans un contexte d'après-guerre civile, mais nous ne sommes pas encore en pleine guerre civile parce que vous avez une deuxième étape de la guerre civile qui va commencer en 1946. Et là, vous avez des persécutions qui vont se faire contre les communistes, notamment en 1947 ou en 1948, où il va y avoir des arrestations massives des cadres et des militants communistes. Donc, il faut comprendre que nous sommes après cette première étape, mais on n'est pas encore passé dans cette phase intense de la guerre civile.
Quelle est la place de la France en Grèce pendant cette période-là?
La France occupe une place importante parce qu'il y a une association entre la Grèce et la France. C'est-à-dire que ce sont 2 pays qui ont vécu l'occupation, ce qui va conduire une large partie de la population, surtout ceux qui se trouvent à gauche, à s'identifier avec la France. La France jouit d'un prestige, elle est très populaire, parce qu'en plus, elle n'a pas été impliquée dans la guerre civile grecque. Quand il y a eu ces fameuses batailles d'Athènes, les forces britanniques ont participé aux côtés des forces gouvernementales, tandis que la France est en dehors de ce conflit. On peut dire qu'à cette époque, il y a une très forte francophilie. Hein. Et ça, on peut le voir notamment par certains événements. Vous avez, par exemple, la fête du 14 juillet, fêtée en Grèce en juillet 1945. Et ça s'est transformé en une manifestation populaire parce que vous avez l'ambassadeur qui a ouvert l'ambassade et il y a une manifestation où il y a à peu près plusieurs milliers de Grecs qui sont allés assister à l'ambassade. Et puis, il y a eu des festivités qui se sont faites avec le maire d'Athènes. Donc, la France est vraiment très, très populaire en 1945 à la suite de la guerre civile et de la libération.
La Grèce est exsangue après 3 ans d'occupation allemande. Les Grecs ont vécu la famine au seuil d'une guerre civile.
Servange Olivet, chargé de recherche au CNRS.
Et Octave Merlier avait bien en tête cette idée de sauver, de mettre à l'abri de nombreux jeunes Grecs qui étaient alors engagés. En décembre 1944, beaucoup ont souffert aussi la perte d'amis, de compagnons. Et pour eux, c'est une chance inespérée de pouvoir quitter un contexte politique extrêmement tendu. Beaucoup ont d'ailleurs rejoint le maquis après février, les accords de Varkiza, donc il fallait rendre les armes. La polarisation change totalement. Les résistants de la veille, pendant l'occupation, deviennent des ennemis en quelque sorte, condamnés à la clandestinité, à rejoindre le maquis, et ça a été le cas aussi de certains boursiers de cette expédition. Kostas Axelos, Castoriadis, beaucoup se sont engagés très activement, ont été arrêtés, parfois torturés. Nikos Voronos également, qui était historien, qui enseignera plus tard à l'école pratique des hautes études, est un militant extrêmement engagé, et d'ailleurs ces boursiers-là seront condamnés par contumace même un peu plus tard, sous un régime ultranationaliste en 52, donc on est bien après l'expédition. Donc tout ce contexte politique est à rappeler pour mettre en valeur le dessin d'Octave Merlier, qui finalement n'était pas seulement de permettre à ces jeunes Grecs de faire leurs études en France, mais également de sauver certains de condamnation ou arrestation ou d'un exil forcé.
Et vous pouvez me parler de la résistance ?
Bien, la résistance, nous l'avons connue en tant que maître de cette jeunesse grecque. Et nous avons vu combien elle était admirable, combien elle était unanime, que c'était quelque chose de brûlant, presque d'une audace folle.
Roger Milieix, secrétaire général de l'Institut français d'Athènes, au micro de Monique Berger, 16 novembre 1945.
Nos élèves, nos étudiants ont participé à cette manifestation dans les rues d'Athènes qui se répétait et qui était vraiment une très grande chose. La question que vous me posez me permettra de rendre hommage un de mes anciens élèves tombé dans les maquis à l'âge de 19 ans, le jeune Appel Castanaki. Et puis, je pense à une de nos élèves qui est morte dans une manifestation de la rue. C'était en 1943, lors de la grande manifestation contre les Bulgares. Une de ses camarades ayant été déchiquetée par un tank qu'elle essayait d'arrêter, follement, cette jeune élève, Lula Koulalili, prit son soulier et frappa à la tête le conducteur. Elle fut évidemment abattue immédiatement, mourut quelques heures après, déclarant « Je ne regrette rien, je suis fier d'être grec ».
Octave Merlier, qui est alors directeur de l'Institut français à Athènes, de 1938 à 1961, ne cache pas ses sympathies politiques. Donc homme de gauche, militant, il s'engage auprès du général de Gaulle, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être rappelé de quitter la Grèce par le gouvernement de Vichy en France, pendant toute la période qui précède justement les préparatifs de cette expédition. Et lui-même va revenir lors de l'été 45, au même moment où le directeur adjoint Roger Milieix lui-même est suspendu pour des raisons politiques en Grèce. Lui-même très engagé, et l'Institut français ne tarde à s'attirer les foudres en quelque sorte des autorités grecques, qui voit d'un très mauvais œil le nombre de jeunes gauchistes et marxistes qui tournent autour de l'Institut français. D'ailleurs en province comme à Athènes, puisqu'on avait trois annexes de l'Institut français à Larissa, Ioannina et Thessalonique. À l'initiative donc de ce voyage, l'idée vient de Octave Merlier de profiter d'une escale d'un bateau pour pouvoir acheminer le plus de jeunes Grecs possible parmi les jeunes gens prometteurs de cette génération. Les bourses ont été suspendues depuis la guerre et on est dans un contexte de concurrence très forte avec le British Council qui, lui, a multiplié les bourses. On a plus de 200 bourses qui sont offertes cette année-là par le British Council. Et l'Institut français veut essayer de se positionner également dans cette guerre de recrutement, de candidature, et le succès est immédiat.
Donc l'Institut français, très lié à la jeunesse diplômée grecque, va jouer un rôle très important parce que la sélection des boursiers va se faire à l'Institut. Et son rôle sera d'autant plus important que c'est bien Octave Merlier qui va réussir à faire une véritable prouesse. C'est-à-dire qu'alors qu'il y avait seulement 24 bourses pour l'année 1945, il va réussir à en faire 163. Il va diviser les bourses annuelles en des bourses trimestrielles ou semestrielles. Il va aussi demander d'autres bourses qu'il a appelées des bourses de personnalité. Et c'est comme ça qu'il y aura cette transformation de 24 bourses à 163 bourses. Et en plus, il va créer une catégorie spéciale, ça s'appelait étudiants partant à leurs frais. Donc il y aura à peu près 80 étudiants, donc 160 environ boursiers plus 80 étudiants. Donc il y aura plus de 200 étudiants qui sont partis en France. C'est le plus grand nombre de bourses jamais attribuées. Et en plus, si on considère les étudiants partant à leurs frais qui ont été aidés par l'Institut, ce statut d'étudiant partant à leurs frais leur a facilité toutes les démarches administratives. C'est-à-dire ils ont pu facilement quitter la Grèce. Il fallait avoir une permission des autorités militaires, des autorités bancaires, des autorités policières. Ils ont obtenu aussi un visa d'entrée en France. Et on peut voir qu'il y a cette forte demande pour faire des études à l'étranger parce qu'il faut considérer qu'on avait entre 800 et 1000 candidats. Et donc si Octave Merlier a essayé de multiplier le nombre de bourses, c'est pour pouvoir autant que possible satisfaire cette très forte demande.
Toute la Grèce rêvait de partir. Je crois que le sentiment était général que trop c'était trop.
Mimika Kranaki, écrivaine philosophe, en 1980.
La coupe était pleine, on n'en pouvait plus de vivre là, cette horreur. Donc, en ce qui me concerne, j'avais fait une demande de bourse au British Council, qui m'avait refusé cette bourse, et le même dossier, je l'ai transporté à l'Institut français, où j'ai été reçu, on m'a accordé une bourse pour philo-sociaux.
C'est un comité qui a choisi les boursiers. Donc, il a pris en compte le mérite de candidats. Il a pris en compte aussi, bien sûr, leur connaissance du français. Mais la connaissance du français n'a pas été le seul critère. Alors, vous avez aussi des candidats communistes qui ont été choisis, ce qui a d'ailleurs gêné les autorités grecques. Alors, l'année suivante, elles ont exercé des pressions pour que ce comité ne soit plus seulement un comité français, mais ce soit un comité mixte. Et donc, ils ont imposé des membres grecs, et ce qu'ils faisaient, leur principale mission, c'était d'éviter qu'il y ait donc des candidats communistes. Et des candidats communistes qui s'intéressaient pour les bourses britanniques avaient très peu de chances d'être choisis. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il y a eu un choix méritocratique et il n'y a pas eu de sélection en fonction des opinions politiques.
Officiellement, les critères étaient apolitiques, donc il s'agissait de recruter les meilleurs talents et les jeunes les plus prometteurs. Donc figurent dans les boursiers qui ont été recrutés des membres de la haute bourgeoisie, pour ainsi dire, qui venaient à Paris par leurs propres moyens. Je pense à Marinopoulos, les deux frères Marinopoulos qui sont devenus entrepreneurs. Mais parmi les jeunes boursiers de cette expédition, une trentaine ont participé aussi bien dans l'activisme que dans la résistance. Toute cette campagne de bourse, on ne peut pas la réduire à un prétexte, mais dans un contexte justement de concurrence avec l'Angleterre, la France avait une carte à jouer dans cette histoire, mais néanmoins, c'était une manière aussi de pouvoir sauver ces jeunes Grecs.
Alors la guerre finie, c'est la résistance qui commence. La résistance terrible en Grèce, dans la montagne. Où ça ? À Montparnasse, à côté de Delphes.
Georges Candilis, architecte, 1979.
Résistance, libération. Et au paradoxe des paradoxes, les résistants vainqueurs, ils sont mis en prison. Et moi, personnellement, je me trouvais dans un camp de concentration, gardé par des miliciens, par des collaborateurs, sous la protection des Anglais. Alors, vous voyez, toute cette vision, tout cet espoir de reconstruire un monde plus juste, plus jeune, plus honnête, s'est écroulé parce qu'on se trouvait encore dans un camp de concentration. Et ce moment, c'était que le général de Gaulle en France, son premier gouvernement, a décidé de renforcer des relations culturelles avec les différents pays. Et par l'ambassade de France en Grèce, il a donné des bourses d'études pour de jeunes scientifiques ou artistes, ou tout ce que vous voulez, grecs, pour Paris. J'étais dans un camp de concentration. J'étais toujours lié avec le cercle français à Athènes, parce que ma famille était francophile, si vous voulez. Et j'étais membre de l'association France-Grèce. Et le directeur de l'Institut de France à Athènes a fait une démarche en me donnant une bourse de me sortir du camp de concentration.
Beaucoup de boursiers, en fait, alors engagés, s'inscrivaient à plein contre cette mainmise britannique. Et de fait, la France sortait gagnante justement pour toute cette génération de jeunes marxistes engagés qui marquent cette amitié franco-grecque depuis l'après-guerre. et qui justement sera encore très nette, même pendant les années 60, mais 68, et l'arrivée de jeunes marxistes et de jeunes résistants contre la dictature prolonge ce mouvement d'accueil des figures d'opposition en France.
Politiquement, mes parents étaient de gauche, oui. En tout cas, ils avaient participé aux Jeunesses communistes, qui était le mouvement de résistance au moment de l'occupation.
Georges Corafas, acteur, fils de Dimitris Corafas.
Mais ils n'étaient pas des décideurs, c'était des petits soldats. Ils passaient des tracts. Il y avait eu des manifestations pendant l'occupation. Ils participaient à ces manifestations. Ils se faisaient taper dessus par les Italiens, qui étaient un peu plus doux que les Allemands, parce que les Allemands... Ils tiraient, les Italiens donnaient des coups de crosse. Je me rappelle d'une anecdote que racontait mon père, où il était bloqué dans l'embrasure d'une porte par un Italien qui essayait de lui donner un coup sur la tête avec la crosse de son fusil. Et mon père, qui était très sportif, arrivait à attraper la crosse et à la descendre une fois, deux fois, trois fois. Et l'Italien a laissé tomber, il est parti s'occuper de quelqu'un d'autre. Ce qui ne serait pas arrivé avec quelqu'un d'un peu plus aguerri ou avec des ordres plus stricts. En tout cas, oui, il y avait une majorité de gens de sensibilité de gauche sur ce bateau. Et je pense que ça a sauvé la vie, carrément, à un certain nombre d'entre eux, qui, eux, étaient vraiment recherchés. Ceux que les gens de la sûreté voulaient empêcher de partir, c'était pas pour aller boire un coup avec eux.
Les disciplines représentées lors de la sélection des boursiers couvrent à peu près tous les champs.
Servan Jolivet.
Les sciences humaines et sociales jusqu'aux disciplines artistiques, musique, architecture, poésie, littérature, mais également les sciences médicales, puisqu'on a des figures très importantes. L'un des grands pneumologues grecs sera formé en France et fera partie de cette expédition. Également des ingénieurs, d'ailleurs, qui rejoindront surtout Marseille et Toulouse. L'ensemble des boursiers sont en sciences humaines. Un tiers, justement, sont en architecture, se consacrent également donc à la sculpture. On a toute une équipe de sculpteurs, parmi lesquels Nelly Andrikopoulou, Philolaos Tsopas, Koulendianos, Memos Makris. Également musique, Dimitris Rorafas, qui deviendra chef d'orchestre. Donc science, nous avons Hélénis Omopoulou, Ioannis Ioannou, André Glinos, mais également des historiens comme Nicolas Voronos, qui sera une des figures importantes dans le milieu académique et universitaire français. Philosophie également, nous avons ces quatre philosophes qui ont acquis une certaine renommée, naturellement Kostas Axelos, Cornelius Kostoriadis, Kostas Papaioannou, également Mimika Kralaki, qui enseignera à l'Université de Nanterre.
Octave Merlier a pu faire cet exploit,
Nicolas Manitakis,
parce qu'il a su bien ménager en même temps les autorités grecques et les autorités françaises. Il disposait aussi de certains appuis au sein de l'administration grecque parce qu'il y avait une de ses collaboratrices qui était mariée à un grec qui avait une position importante au sein du gouvernement. Donc ça a pu vraiment aider. Et puis il avait aussi des très bonnes relations à l'époque, avec le ministère des Affaires étrangères français, avec notamment la Direction générale des relations culturelles. Les autorités grecques ont accepté donc de participer à l'envoi de ces presque 200 étudiants grecs à l'étranger, et ils ont même accepté de financer en partie le voyage.
Alors il faut savoir qu'Octave Merlier avait le soutien de l'ambassade française à Athènes. Néanmoins, très vite, il a été confronté aux résistances du gouvernement grec qui a multiplié les difficultés, les contrôles également, jusqu'au moment du départ du bateau. Et il y a toute une campagne de presse extrêmement virulente contre l'Institut français, en quelque sorte cible de mire de la presse nationaliste grecque qui voyait cette expédition d'un très mauvais œil.
Et après, la grande question qui s'est posée, c'est comment ces boursiers allaient arriver jusqu'en France, hein ? Il y avait très peu de moyens, donc c'était pas possible par voie terrestre, les chemins de fer ne fonctionnaient pas. Le seul moyen, c'était par bateau, mais même trouver un bateau s'avérait une entreprise très très difficile. Alors vous avez les 200 boursiers qui ont été choisis, hein, ils étaient 130 plus les étudiants partant à leurs frais, mais vous avez aussi 6 épouses, donc ce sont des épouses qui accompagnent des boursiers déjà mariés. Et là, ce qui est important à souligner, c'est que vous avez sur le Matarois à peu près une trentaine de femmes. Donc nous avons à cette époque-là une émigration étudiante avec une forte participation féminine. Jamais il y avait eu autant de femmes grecques qui sont allées faire des études en France. Et ils ont dû attendre 3 mois, jusque donc en décembre 1945, jusqu'à ce qu'on trouve un bateau qui puisse donc les transporter. Alors, ce bateau était utilisé par la marine britannique pour le transport des troupes, notamment britanniques qui allaient en Palestine. On dit d'ailleurs qu'il y a eu aussi des survivants de l'Holocauste qui ont fait ce voyage de l'Italie jusqu'en Palestine et que c'était un bateau donc en retour qui transportait d'ailleurs des troupes britanniques qui s'est arrêté en passant par le Pirée. Et donc le Matarois, ce bateau néo-zélandais, a fait ce voyage le 22 décembre jusqu'à Tarente, le 24, et après en train jusqu'à l'arrivée le 28 décembre à la gare de l'Est. Donc ils ont trouvé un premier navire qui a pu transporter environ les 124 boursiers avec les 6 épouses qu'il y avait, mais il restait encore des boursiers qui n'étaient pas partis. Alors il a fallu organiser une deuxième expédition, qui s'est produite en février 1946, où vous avez encore 70 boursiers qui sont allés en France. Et il faut aussi considérer que vous avez un troisième voyage qui s'est fait en mars, donc un peu plus tard. Et c'est un voyage par avion. Il y avait un avion militaire qui reliait la France à la Grèce. Il y a à peu près une dizaine de boursiers qui ont embarqué donc dans cet avion et qui sont allés comme ça vers la France. Tout cela montre la grande difficulté qu'il y a pour le transport.
Pour donner une idée de la fébrilité des jeunes attendant l'arrivée du bateau, une lettre signée par Georges Candilis, Dimitris Chorafas et Panos Telepis, celui qui encadrait en quelque sorte les boursiers, avait été adressée aux autorités françaises le 18 décembre 1945, où les boursiers font état d'une véritable guerre des nerfs et d'une méfiance légitime provoquée par le retard de l'embarquement, et suggère même aux autorités françaises de détourner un navire qui se rendrait d'Alexandrie à Marseille. L'ambassade même a eu l'idée de dérouter même un bateau depuis Beyrouth. Donc un soutien très fort de l'ambassade française qui a rendu possible également cette expédition. Il y avait une forme d'immobilisme aussi, et l'hostilité des autorités grecques face à cette initiative. Autorités grecques alors sous la coupe des Anglais, qui étaient assez peu réactives pour accorder les visas, les documents nécessaires à l'embarquement.
Évidemment, la situation en Grèce est dégradée. On craignait tous qu'un jour ou l'autre, ou la police ou d'autres autorités, ils pouvaient intervenir et nous empêcher de partir.
Aristide Zizikas, ingénieur civil, au micro de Guillaume Mallory, 1980.
Le moment du départ au Pirée, on a constaté l'intervention de la police. Ça veut dire que la police doutait que nous, partant de Grèce, on amenait des documents de la résistance grecque pour informer quand même l'Europe de ce qui s'est passé en Grèce.
Ce qui était vrai d'ailleurs.
C'était vrai et c'était nécessaire, je crois.
Ça pesait sur tout le monde.
Kostas Koulentianos, sculpteur.
Il y avait l'espoir d'un côté de partir et de l'autre côté, il y avait les gendarmes derrière.
Mes parents voulaient rentrer en France puisqu'ils habitaient Paris avant la guerre. Et mon beau-père s'est mis en contact avec Miliex, qui lui avait donc promis de lui donner le poste de médecin accompagnant les boursiers.
Hélène Mangriotis, psychanalyste, en 1980.
Donc nous sentions quand même tout à fait exclus. C'est-à-dire, je sentais qu'il se passait des choses. Je sentais que parmi les boursiers, enfin tous les gens qui avaient milité, qui étaient communistes, qui étaient des intellectuels, voulaient quitter la Grèce pour des raisons que je comprenais très bien. Mais moi-même, je n'avais pas participé à cette vie politique, mes parents non plus. Donc je me sentais un peu parasitaire et je sentais que mes parents avaient profité de cette occasion pour quitter la Grèce. Et en quelque sorte, je me sentais un peu honteuse. Parce que j'avais senti qu'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient échappé, que j'avais un âge où ces choses-là n'auraient pas dû m'échapper. Parce que par exemple, j'ai eu un camarade de classe qui, lui, est mort pendant la guerre civile, il avait 15 ans, on l'a trouvé mort au pied de l'Acropole. Donc je me suis senti comme ça, enfin, amenuisée par mon milieu qui nous gardait dans cette espèce d'infantilisme. J'avais le sentiment, alors là, très 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 précis et tout à fait ineffaçable, que j'avais vécu quelque chose de très important sur le plan historique et sur le plan humain. Une expérience en même temps épique, douloureuse, très angoissante, mais où il y avait des grands sentiments de fraternité, de camaraderie, de souffrance partagée.
Extrait du livre de la sculptrice Nelly Andrikopoulou, Le voyage du Matarois 1945, dans le miroir de la mémoire.
Après 2 mois d'attente et de nervosité, la journée tant attendue est enfin arrivée. Celle qui allait tourner une page dans notre vie. le 21 décembre 1945, en plein cœur de l'hiver, la silhouette sombre du Mataroa, avec sa haute cheminée penchée, se dessina à l'horizon du Pirée. Le navire jeta l'ancre au large. À bord du bateau, quelques cabines furent attribuées aux filles. Les garçons se retrouvèrent dans des dortoirs. À l'annonce de mon numéro de cabine, je me suis précipitée pour y déposer ma petite valise. Mais, ouvrant la porte brusquement, je fis un pas en arrière. Dans la pénombre, une femme jouait d'un petit piano sans émettre le moindre son. J'ai sursauté comme si j'avais vu le fantôme du navire. Qui était cette colocataire ? Durant tout le voyage, elle déambula en silence, portant à l'épaule ce petit piano muet qui lui permettait de s'exercer sans déranger personne. Tout le monde se souvient d'elle, mais personne ne savait qui elle était. Même moi qui partageais sa cabine. Je me rappelle vaguement une silhouette fragile, pas très jeune, mais je n'ai jamais su à quel nom de la liste l'identifier. Le mystère fut finalement résolu par Dimitris Marinopoulos. Il s'agissait de la boursière Sofia Zafiropoulou. Les proches venus nous dire un dernier adieu sur le quai s'étaient déjà dispersés. Le dernier à nous saluer sur le navire fut Octave Merlier. Toutes les formalités étaient terminées, finis les mensonges. Nous étions à bord du Mataroa, nous levions l'ancre à l'aube. Un peu plus tard, sur la passerelle, je me retrouve pour la dernière fois sous le ciel étoilé de l'Attique. Un chaos de velours noir. Un souffle de liberté emporte mon âme, mais je reste comme pétrifiée. Dans la nuit, je prends conscience de la situation. Toutes sortes de sentiments se portent vers la Grèce que nous allons laisser derrière nous au petit matin. La reverrons-nous ? Quand ? Et comment ?
C'était Mataroa 1945, une odyssée moderne. Premier épisode, l'Arche de Merlier, avec Nicolas Manitakis, Servange Olivet, Georges Corafas. Extrait du livre de Nelly Andrikopoulou, Le voyage du Mataroa 1945 dans le miroir de la mémoire, lu par Marlène Goulard. Prise de son, Alexandros Kasselakis, Johanna Gabritsch. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Anne-Lise Signoret. Documentation INA, Clary Monac. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Yorgos Archimandritis, réalisé par Laure-Hélène Planchet. À suivre, second épisode, Un monde nouveau.